Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde.
Carnet du monde.
Дневники мира.
Europa 1.
Европа 1.
Bem-vindos nos cadernos do mundo.
Sophie Larmoyer.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour notre vadrouille du dimanche. À quoi ressemble la vie des autres ailleurs dans le monde? Voilà ce qu'on va explorer ensemble. Avec une première image, 45 mètres d'épaisseur d'ordures en tout genre aux portes de Casablanca au Maroc. Une chance qu'on n'ait pas l'odeur. L'immense décharge de la ville aurait dû être fermée, mais non, rien ne bouge. Peut-être parce que cette poubelle à ciel ouvert fait la fortune de certains. Deuxième image, un grand texte adopté il y a tout juste 70 ans. Quelle est la portée de la Déclaration universelle des droits de l'homme pour les jeunes aujourd'hui? Réponse avec les haut-parleurs. On va vous les présenter. Ils forment un réseau de jeunes reporters engagés partout dans le monde. On recevra aussi deux Canadiens qui écrivent sur nous, les Français, un peu à la manière d'anthropologues. C'est toujours instructif de savoir comment on est perçu depuis l'étranger. Et puis vous entendrez une grande enquête réalisée aux Philippines sur un vaccin contre la dengue. Mis au point et vendu par le français Sanofi, il fait polémique car de nombreux enfants seraient morts des suites de la campagne de vaccination. Enfin, Nicolas Carreau nous propose aujourd'hui un conte à 8 jours de Noël. Quelle bonne idée! Et puis Joseph nous emmènera en autistan peu avant 14h. Les carnets du monde sont ouverts. Direction le Maroc.
Europe 1, les carnets du monde.
Fin de la COP24 ce week-end en Pologne, après deux semaines de discussions, un sommet climat plutôt décevant et sans grande ambition. Mais nous, on retourne au Maroc où s'était tenue la COP22 il y a deux ans. Depuis, le pays a concrétisé un certain nombre de projets durables, comme l'immense centrale solaire de Ouarzazate. Mais il y a aussi des promesses qui n'ont pas été tenues, comme la fermeture de la gigantesque décharge de Casablanca. Elle devait être fermée juste après la COP22, mais elle est toujours là, à ciel ouvert, aux grandes dames des habitants qui n'en peuvent plus. C'est un reportage de notre correspondant Alexandre Aublanc aux portes de Casablanca.
Au bord de la route, les montagnes de déchets apparaissent derrière la brume. Elles vont par endroits jusqu'à 50 mètres de haut dans le fond d'une ancienne carrière. Bienvenue à Medjouna, la plus grande décharge du Maroc. Ouverte en 1986, l'endroit accueille les ordures de 4 millions d'habitants de la région. L'équivalent de 3500 tonnes de déchets est déposé chaque jour, ici en plein air, sur un terrain de 80 hectares. Alors quand le vent souffle, leur odeur se répand à des kilomètres à la ronde. Un homme qui habite dans une ville voisine témoigne.
Moi, je fais ma prière tôt le matin, 5h30, 6h15, en me dirigeant vers la mosquée, une odeur nauséabonde. Voilà. Et pratiquement, en des périodes bien précises de l'année, hein. Je ne sais pas si c'est en hiver ou là, en fonction de la direction du vent, mais on reçoit une odeur nauséabonde. C'est insupportable. Alors, nous avons ici une association. Ils ont été à la préfecture dernièrement, ils ont manifesté leur mécontentement, ils ont déposé des dossiers pour essayer de trouver une solution à la décharge de Medjouna.
Au pied du dépotoir vivent pourtant plusieurs centaines de personnes dans des baraquements de fortune. Certaines sont nées ici, comme cet éleveur rencontré alors qu'il dirige son troupeau dans un champ tout proche.
Les odeurs de la décharge, quand je les respire, elles ont des effets négatifs sur ma santé. Je le sens. Sur mon troupeau, je ne sais pas, mais j'aimerais bien savoir. Avant, mes bêtes allaient manger dans la décharge. Mais maintenant, c'est interdit. Trop d'animaux sont morts. Ici, partout où tu vas, il y a des déchets. Même la route sur laquelle nous sommes, elle est pleine de déchets.
Et avec les pluies de l'automne, la décharge de Medjouna est entourée d'immenses poches d'eau, une sorte de jus d'ordure appelé le lixiviat qui s'infiltre dans les sols et constitue une vraie menace écologique, comme l'explique Ahmed Chitachni, un militant écologiste.
C'est un liquide nocif qui pollue la nappe phréatique, qui pollue toutes les plantations environnantes, puisqu'on a eu à discuter avec des agriculteurs dont les terres ne produisent plus rien. C'est vraiment un acide toxique, c'est du nocif. Et il est très mal géré, ce liquide, parce qu'il se déverse dans la nappe et se déverse dans la nature. En plus du lixiviat, il y a le gaz méthane qui se dégage de ces immondices. Ça devient vraiment intolérable et ça provoque des allergies, ça provoque des problèmes de bronches, de poumons. C'est un vrai problème écologique.
Des eaux de mauvaise qualité, la viande du bétail local qui représente un vrai risque pour la santé, des allergies, des crises d'asthme, la décharge de Medjouna fait le malheur des uns mais aussi le bonheur des autres. Dans un pays où le tri sélectif n'existe pas, c'est toute une économie parallèle qui s'est emparée du recyclage. Sur la décharge et au-delà, des chiffonniers, des trieurs ramassent les plastiques, les cartons, les papiers pour quelques euros par jour au profit de patrons informels. Samir Abderrafi, le directeur d'une association de protection de l'environnement, n'hésite pas à parler d'une véritable mafia.
Ce sont au moins, on ne sait même pas exactement combien, entre 800 et 1600 personnes qui travaillent là-bas. C'est des chineurs, des chiffonniers qui travaillent dans des conditions lamentables mais qui gagnent un peu d'argent, de 100 dirhams à 300 dirhams par jour. Ça dépend où ils travaillent. Est-ce s'ils travaillent au niveau de la décharge ou bien dans les rues, parce qu'on les trouve en train de chercher même dans les poubelles, dans les conteneurs de déchets, dans les rues, dans les boulevards et tout ça. Et tous ces gens-là, ils travaillent avec des grossistes qui se font beaucoup de fric, qui sont dans l'informel et qui vendent les déchets récupérés aux unités industrielles de recyclage au Maroc. C'est vraiment très bien organisé, on ne peut pas pénétrer là-dedans et ça se passe au su de tout le monde. Si vous allez à la décharge, vous allez voir qu'il y a énormément de camions qui rentrent et d'autres qui sortent. Ils gagnent beaucoup d'argent. On peut les voir parfois en train de vendre, d'acheter des quantités énormes, de faire des transactions énormes. Et ça échappe à tout contrôle. C'est vraiment presque une mafia qui est là.
Et ces lobbies puissants protègent jalousement une petite fortune. Le chiffre d'affaires annuel de la décharge de Medioune avoisine les 80 millions de dirhams, plus de 7 millions d'euros. Une somme sur laquelle la ville de Casablanca ne touche pas un centime. À Casablanca, Alexandre Blanc, Europe 1.
Retour dans le studio, toujours en ligne avec Alexandre Blanc depuis Casablanca. Bonjour Alexandre.
Bonjour Sophie.
On va donner quelques précisions avec vous. On a entendu les critiques très claires sur cette décharge dont les experts estiment qu'elle contient 40 millions de tonnes de déchets ménagers et industriels, tout mélangés. Malgré les engagements, on continue comme avant ou il y a quand même des solutions qui sont envisagées?
Alors ça fait 8 ans que les autorités parlent de fermer la décharge. Le projet envisagé aujourd'hui, c'est plutôt d'en construire une nouvelle sur un terrain tout proche, deux fois plus petit. Ouais. On parle aussi de construire un incinérateur. C'est une option qui fait bondir les associations parce que d'abord, ça va coûter très cher. Mmh. Et puis en brûlant à peu près tout, notamment les plastiques, l'incinérateur va dégager dans l'air des substances toxiques, ce qui risque d'aggraver encore un peu plus la qualité de l'air. Mmh. Alors la solution serait plutôt de mettre en place le tri sélectif directement chez l'habitant. Il y a des tests concluants qui ont déjà été menés dans une vingtaine de villes. Les trieurs et les chiffonniers, pour eux, on préconise la création de coopératives. Ça existe déjà, notamment à Fès, une ville dont 30% de l'éclairage est assuré aujourd'hui grâce à la revalorisation de ses déchets ménagers.
Ouais, donc ça marche très bien. Alors on sent que la solution, en tout cas à Casablanca, n'est pas exactement pour demain. Ça, c'était pour ce qui ne va pas. Mais par ailleurs, la COP22, il y a 2 ans au Maroc, a aussi permis de vrais progrès avec des projets importants qui ont vu le jour, Alexandre.
Ouais, y a une ville qui incarne bien ces progrès, c'est Ouarzazate, au sud du Maroc, aux portes du désert. Mm-hmm. Là-bas, une centrale solaire a été construite en 2016, en plusieurs tranches. C'est la plus grande d'Afrique. Mm-hmm. Elle fournira à terme de l'électricité à plus de 2 millions d'habitants. Le Maroc a aussi misé sur le vent. C'est aujourd'hui le pays africain qui compte le plus de projets éoliens. Tout ça avec l'objectif de porter d'ici 2020 à plus de 40% la part des énergies renouvelables dans la production d'électricité au niveau national. Il y a une autre mesure, moins spectaculaire mais très importante, qui a aussi été prise il y a 2 ans. C'est l'interdiction des sacs en plastique. 26 milliards de ces sacs étaient consommés en moyenne chaque année dans le pays. La mesure commence à porter ses fruits puisque la grande distribution et les commerces de proximité, ils ont complètement arrêté leur utilisation.
Ouais, et ça, c'est pas un détail, c'est même visuellement, c'est vraiment important. Pourvu que la COP24 ait les mêmes effets bénéfiques en Pologne. Merci beaucoup Alexandre, à très bientôt dans les carnets.
Merci Sophie, au revoir.
Europe 1.
Vous reconnaissez sûrement cette phrase, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. C'est le début de l'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui vient de fêter ses 70 ans. Dans un instant, on voit comment des jeunes partout dans le monde s'emparent de ce texte fondateur. Le 10 décembre, lundi dernier, c'était l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée en 1948, il y a 70 ans donc, par l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était à Paris, au Palais de Chaillot, et parmi les rédacteurs de ce texte fondateur, le juriste et diplomate français René Cassin.
Notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations de l'humanité contre les atrocités et les oppressions.
Extrait du discours de René Cassin qui est devenu en fait le générique d'une série de vidéos réalisées par des jeunes du monde entier. des jeunes qui font partie de la communauté des haut-parleurs. Et pour en parler avec nous, deux invités m'ont rejoint, Claire Leproust et Hanan Gendil. Bonjour.
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 Claire Leproust, c'est vous qui avez créé ce média de jeunes reporters avec TV5 Monde, les haut-parleurs. Qui sont ces jeunes vidéastes engagés ?
Ces jeunes vidéastes, ce sont des jeunes journalistes, parfois des artistes journalistes, des activistes, des vlogueurs, des youtubeurs, en tout cas des jeunes qui sont sur leur terrain dans plein de pays. Ils ont un point commun, c'est qu'ils parlent tous la langue française. Et depuis 3 ans, on a décidé de leur donner la parole pour que, avec beaucoup de liberté, ils racontent des choses, des sujets de société qui concernent leur génération, qui les touchent et qu'ils ont vraiment envie de défendre avec beaucoup de liberté, à la fois de ton, mais aussi dans la forme.
Je crois que c'est un réseau assez large, hein, une centaine de
jeunes. Oui, aujourd'hui,
il y en
a bien 150
pays,
au moins qui ont travaillé. Et puis, parce qu'il y en a dans le monde, mais il y en a aussi en France. Et voilà, de plus en plus nous rejoignent.
Avec une large diffusion sur Internet.
Alors, on est parti vraiment d'une liberté que donne Internet pour ce ton, cette forme, casser un peu les codes aussi, puisque on aime bien dire qu'on fait du journalisme créatif, c'est-à-dire que dans la forme, on peut avoir du dessin, du rap, etc. Même si le sujet est un sujet de société réel et dit avec à propos, ils sont tous réunis par l'envie de raconter ces histoires-là.
Hanan Gendil, vous avez coordonné la production de ces vidéos comme rédactrice en chef. Alors, c'est une série autour de la Déclaration universelle des droits de l'homme initiée par le Théâtre de Chaillot pour cet anniversaire. Cette série s'appelle « Résiste ». L'idée, c'était quoi ? C'était de voir avec ces jeunes quel sens avaient les 30 articles de la Déclaration aujourd'hui pour eux dans leur pays ?
Exactement. En fait, on a tout simplement repris tous ces articles. Certains sont plus précis que d'autres, forcément. Et on a discuté avec ces jeunes dans leur pays. On leur a dit « Est-ce que tu peux lire la Déclaration et me dire... qu'est-ce que ça raconte chez toi ?» Et très souvent, en fait, ce qu'on a retrouvé, c'est que ça faisait souvent référence pour eux, en tout cas à leurs yeux, à un droit précis qui était bafoué ou violé dans leur pays. L'idée, c'était de le reprendre et voilà.
Alors, on va écouter un petit exemple, si vous voulez bien. C'est le tout début de la vidéo de Mara au Maroc.
Il est arrivé qu'un enfant de 5-6 ans soit piqué par un serpent en plein milieu de la nuit. Comment peut-on le sauver ? Il faut des responsables qui puissent agir dans ces cas-là. Ici, on n'a que Dieu, pas les autorités locales, ni personne.
Et oui, ici, comme dans beaucoup d'autres pays, des villageois peuvent mourir de piqûres de serpents. Je suis Mara au Maroc et j'ai découvert une situation alarmante. La plupart des milieux ruraux de mon pays souffrent de déserts médicaux. Pas d'hôpitaux, pas de médecins, pas d'ambulance à proximité. Des jeunes étudiants en médecine ont tenté d'apporter leur aide et ils m'ont épatée. C'est cette histoire que je vais vous raconter.
Voilà, alors là, c'était pour illustrer le droit d'accès à la santé.
Exactement.
On entend ce ton très libre dont vous parliez, très spontané, très internet finalement.
Exactement. La chose aussi très importante, c'est que l'objectif, c'est pas juste de montrer un droit qui est bafoué, mais aussi, surtout, de montrer des jeunes sur leur terrain qui résistent, donc qui se bougent pour faire respecter ce droit. Donc l'idée, c'est de dire, d'accord, on n'est pas naïf, donc tel droit, comme l'accès à la santé, n'est pas respecté dans tous les pays du monde, d'ailleurs pas qu'au Maroc. Ouais. Donc c'est pas une fatalité, on n'est pas résigné, du coup on montre des jeunes qui se bougent. Donc il y a d'autres sujets, il y en a qui incarnent leur sujet, et d'autres qui montrent, par exemple, où il y a la discrimination, il y a le droit à la vie comme un sujet sur les albinos qui sont,
qui sont carrément persécutés dans beaucoup de pays d'Afrique.
Ils sont sacrifiés carrément au Mali.
Oui, absolument.
Voilà, notamment au Mali. Et là, le prisme, c'est de raconter que des jeunes en fait, slameurs, des jeunes albinos prennent le slam pour raconter en chanson ce combat-là, par exemple.
C'est ce qui rend ces petites vidéos très dynamiques et finalement très souriantes, c'est qu'à chaque fois, il y a un début de solution, une proposition de solution de la part de ces jeunes-là, et puis l'implication d'un artiste aussi.
C'est ça, l'implication d'un artiste et surtout celui des haut-parleurs, parce qu'en fait, ils se sentent comme on leur demande de s'engager dans leur vidéo initialement. Donc, on leur demande un parti pris et du coup, de se sentir concernés. Et comme ils se sentent concernés, ils nous disent tout le temps, moi, mon rôle, j'ai envie en fait de me sentir utile. J'ai envie de servir à quelque chose. C'est redonner aussi du sens à ce métier ou donner du sens à ce métier. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, ce qui est très important, c'est que nous, quelque part, on est un petit peu, pour certains, une tribune dans leur pays parce qu'ils n'ont pas forcément la liberté de dire certaines choses sans vouloir rentrer dans le cliché. Hein, mais parfois,
par exemple, on peut donner des exemples, par exemple.
Au Cameroun,
voilà,
avec l'homophobie qui, ouais, qui est voilà, effectivement donc
au Cameroun, il s'appelle Ecclésiaste et lui, ouais, il dit, moi j'ai fait mon coming out, je ne suis pas homophobe. Ouais. Et donc c'est rigolo de le dire, et il le dit avec une troupe de théâtre. Et pourquoi c'est important de le dire? Parce que c'est un pays où les homosexuels peuvent risquer leur vie. Il y en a une autre, par exemple, qui va faire un sujet avec une danseuse sur les nouvelles censures de l'art, par exemple, et notamment en France, où on peut retrouver des anti-racistes, des des spécistes très anti-vegan qui sont très révoltés et par leur révolte peuvent conduire à supprimer des œuvres de certains endroits. Voilà, donc c'est toujours.
Oui, ils s'emparent de sujets lourds quand même. Hein.
Oui.
Sujets lourds, mais pas forcément. En fait, juste un petit truc sur ça, ouais, c'est que parfois, en fait, il y a des droits qui sont peut-être plus prioritaires que d'autres. On peut citer le droit à l'éducation, mais il y a aussi des droits qu'on a cités qui concernent tout le monde, qui sont peut-être un peu plus basiques, mais qui sont dans le quotidien, comme le droit à la vie privée.
Oui.
Donc, on a un sujet de Thomas en Belgique qui est avec une BDiste belge qu'il a fait en duo avec elle. Et en fait, Thomas, il va carrément à Vienne, il prend l'avion pour la vidéo et il va rencontrer un lanceur d'alerte, une société de lanceurs d'alerte qui s'appelle Neub, et pour montrer concrètement en fait comment aujourd'hui protéger ces données sur les réseaux sociaux.
Voilà, et on parle donc de droits, on parle d'interdits, on parle de culture, on parle de mœurs, on parle d'environnement, tout ça est très positif. Donc les haut-parleurs de cette jeune génération, on peut les retrouver sur le site de TV5 Monde, en format YouTube, Instagram et Facebook, et également pour ce qui est de cette série Résiste, sur le site du Théâtre National de Chaillot. Ils ont fêté de bien jolies manières ces 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, en rappelant qu'au-delà d'un texte fondateur, eh bien, c'est aussi dans la vie de tous les jours que s'incarnent ces droits humains. Merci beaucoup Claire Le Proust et Anan Gendil d'être venus nous présenter Les Haut-Parleurs sur Europe 1.
Merci, merci. Et vive Les Haut-Parleurs.
Europe 1.
À suivre, un livre dans le monde, et aujourd'hui c'est un joli conte illustré pour les petits et les grands. C'est une autre manière de découvrir le monde, les livres, la littérature, avec notre guide Nicolas Caro. Buongiorno Nicolas.
Buongiorno Sophie.
Direction l'Italie avec un conte inspiré du folklore toscan. Un conte pour les enfants, mais pas seulement.
Ça s'appelle Pampirolo, le voyage inattendu chez une petite maison d'édition, Yveline Édition. Ils nous ont harcelés par mail, donc on a fini par regarder le bouquin et c'est bien. Écrit et dessiné, parce que c'est un conte illustré par Laetitia Durand et Edith Laure Roskowski.
En format paysage, je vois.
Exactement, A4. Mmh. Sur la couverture, on voit le toit d'une maison au premier plan, un village derrière, une rivière et une forêt sur le côté, mais sur la cheminée se tient un petit personnage étrange dessiné comme une silhouette de petit bonhomme. Vous savez, j'ai juste une tête ronde et un trait noir pour le corps. Exactement. Mmh. Un bonhomme bâton cherché. Je vous le dis tout de suite, c'est le héros, lui. Il s'appelle Pampirolo.
Et que fait Pampirolo sur ce toit?
Eh bien, c'est le gardien de la cheminée. Sans lui, n'essayez même pas de faire un feu, ça ne marchera pas, ça va fumer. La cheminée ne tirera plus rien du tout. Entre nous, il ne fait pas grand-chose. Pampirolo, l'hiver, il veille sur la cheminée, mais le reste du temps, il est tranquille. Il reste sur son toit, peinard, mais il est heureux. Il aime bien sa fonction, il en est assez fier même, puisque la cheminée permet aux habitants de la maison de se retrouver, de raconter des histoires, de rigoler, de se serrer au coin du feu.
Mais c'est un vrai personnage italien, ce Pampirolo.
Il existe pour de vraies explications de l'auteur du livre, Laetitia Durand.
Le personnage existait, parce qu'en fait on n'en trouve plus du tout. Les maçons en Toscane, dans une petite partie de la Toscane en Italie, quand ils construisaient une maison, ils modelaient un petit personnage en terre, qu'ils plaçaient au-dessus de la cheminée pour que la cheminée tire bien, en fait, pour qu'elle fonctionne bien. Et c'est lui qui m'avait raconté qu'il fallait mettre ça sur la cheminée pour qu'elle fonctionne bien.
Voilà, j'adore. Ça existe. Donc ce Pampirolo est heureux, mais un jour, bah oui, parce qu'il y a toujours un problème dans les histoires, sinon on s'ennuie. Mais un jour, donc, Sophie, vous nous racontez.
Alors, Pampirolo a remarqué que depuis un bon moment, la cheminée reste éteinte. Pourtant, l'hiver est arrivé, on aperçoit même la neige en haut de la colline. Alors, un jour où le chat est venu sur le toit pour changer les idées et essayer d'attraper une mésange, Pampirolo lui demande s'il a une explication. Pourquoi la famine n'allume-t-elle plus de feu? Et le chat lui donne cette réponse ahurissante. C'est à cause des écrans.
Et voilà, c'est à cause des écrans. Les humains d'en bas, le père, la mère et les deux enfants sont bien autour de la cheminée, mais ils ne prennent plus la peine de l'allumer. Ouais. Ils jouent, ils voyagent, discutent avec le monde entier, les yeux rivés sur leurs écrans.
Et donc Pampirolo, il s'ennuie.
Et ben voilà, à mourir. Il discute un peu avec le chat quand il grimpe sur le toit, mais bon, il est un peu bizarre ce chat. Il y a les hirondelles aussi qui lui racontent leur voyage quand elles partent vers le sud, mais elles restent pas l'hiver. Et donc un jour, Pampirolo décide de quitter son poste, tout simplement. Il en a marre, pour la première fois de sa vie, il descend, c'est pas très compliqué, il glisse le long de la gouttière, et là, incroyable, le sol est plat et pas pentu comme le toit. Pampirolo s'y habitue quand même assez vite, et il part découvrir le monde, la forêt, la rivière, la faune locale, etc.
C'est un voyage initiatique en fait.
Exactement, ouais. Il va voir le monde différemment, Laetitia Durand.
Quand il descend de son toit, il prend contact avec la réalité, c'est-à-dire que tout ce qu'il a toujours vu de loin, il le voit de près. C'est là qu'il s'aperçoit que les fleurs sont différentes de ce qu'il, enfin que tout est différent de ce qu'il avait imaginé avant. Un peu comme avec les écrans où, je veux dire, visiter virtuellement la Chine quand on peut pas y aller, c'est formidable. Mais en même temps, quand on marche vraiment sur la Grande Muraille, on a d'autres sensations. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, et là, il se rend compte qu'il peut aussi faire autre chose. Sans nuire à son occupation principale, il peut aussi faire d'autres choses. On n'est pas obligé d'avoir qu'un seul rôle, quoi.
C'est la morale de l'histoire.
Mais oui, Nicolas. Enfin, je vous rassure quand même. À Noël, la famille essaye de faire un feu et c'est la panique puisque la cheminée ne fonctionne plus. Ils se rendent compte que Pampirolo était indispensable. Ils vont donc le chercher en urgence. Pampirolo revient, mais décide. Car il règle la cheminée tout, hein. Mais après il décide que l'été, en tout cas, il lâchera un peu son poste pour retenter l'aventure.
Belle leçon. Un mot du dessin.
Il est intéressant, à la fois très figuratif, très réaliste, et en même temps, Pampirolo donc est à peine dessiné et les détails sont juste esquissés pour nous laisser, j'imagine, un peu de marge d'imagination.
Et puis les enfants peut-être peuvent y retrouver leur dessin aussi. Pampirolo, le voyage inattendu chez Yveline Édition. Merci beaucoup Nicolas.
Merci Sophie.
Europe 1.
Ainsi parlent les Français. C'est le livre réjouissant de deux Canadiens qui auscultent à la loupe la manière dont nous communiquons, nos tics de langage, qui révèlent un mode de pensée. Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau nous rendent visite sur Europe 1. Dans les carnets, on sillonne le monde pour essayer de mieux comprendre comment on vit ailleurs. Et parfois, on fait l'inverse, on retourne le miroir. Ou plutôt, on écoute ce que les autres pensent de nous, comment on est perçu. Et il y a deux auteurs qui excellent dans cet exercice, ils ne sont pas à leur coup d'essai, avec leur dernier livre, Ainsi parlent les Français. Julie Barlow et Jean-Benoît Nadeau sont avec nous sur Europe 1. Soyez les bienvenus.
Bon, merci.
Merci. Vous êtes Québécois, issu de la culture anglophone pour vous, Julie, de la culture francophone pour vous, Jean-Benoît. Vous étiez déjà venu dans les carnets il y a bien longtemps. Ce qui vous donne ce recul d'observateur, un peu comme des anthropologues, en fait. Hein, oui. Vous êtes un peu comme ça. Le sous-titre de votre essai promet de décrypter les codes, tabous et mystères de la conversation française. Et vous aurez sans doute remarqué que j'ai soigneusement évité de vous dire bonjour. Ça vous a échappé, vous, Jean-Benoît. D'habitude, je dis bonjour, mais là, vous écrivez pendant tout un chapitre que dire bonjour, ce serait très français. Vous trouvez qu'on le dit trop, en quelque sorte ?
Ouais, Julie. Vous le dites très, très souvent. Je pense que vous n'êtes pas conscient de l'importance, en fait. C'est un réflexe chez vous, donc ça va. Nous, on l'oublie de le dire et on se rend compte que les Français réagissent vraiment mal quand on ne dit pas bonjour, puis quand on n'attend pas qui redisent bonjour. Donc,
Ben, c'est un réflexe acquis, effectivement. Et on passait une année en France en 2013-2014 avec en famille et parfois, ben, on oubliait. Mais ça, c'est mauvais service au rendage garanti.
Mais parce que vous expliquez que dire le bonjour veut dire beaucoup de choses. Oui. D'abord, ça veut dire « je suis là, je salue, donc je suis ».
C'est ça, exactement. J'entre dans votre bulle, je m'apprête à vous parler aussi.
On va communiquer.
C'est ça. Ou à vous demander quelque chose.
Mais en France, il y a des termes comme... Bonjour est un terme comme ça, mais c'est des termes fatigues. Hein? Les anthropologues donnent ce nom-là, ce genre de termes-là. Ouais. Bon appétit, au revoir, rolala, ce qui n'est pas vraiment un mot, qui est une interjection.
J'avais pas remarqué, mais en vous lisant, je m'aperçois qu'effectivement, on n'arrête pas de dire rolala quand on va râler, comme on
c'est
annonce.
C'est ça. Il faut annoncer de râler. Le râlement ne sera pas bien accepté si on n'a pas précédé du son.
Pour revenir au bonjour, vous racontez par exemple qu'un jour vous montez dans un bus, vous oubliez de dire bonjour au chauffeur de bus et vous voyez que ça va pas du tout.
Dit-il. Et là, j'ai la jambe mal élevée.
Pardon, mais à Montréal, quand vous entrez dans un bus, vous dites rien, vous l'ignorez le chauffeur de bus.
On peut dire bonjour si on a le goût de dire bonjour, mais c'est pas nécessaire par voir l'accueil.
Mais sinon,
du
il n'existe pas si on lui dit pas bonjour.
Mais on existe pas, sans bonjour.
Il veut pas nécessairement exister.
Bon, en même temps, quand vous dites bonjour aux rares habitants d'un hameau en Auvergne où vous passez des vacances, vous vous retrouvez avec le frigo plein de produits du coin et invité à l'apéro. Donc ça a du bon.
Ça a du bon. On est parti du fait que les Nord-Américains ont beaucoup de difficultés à comprendre les Français au niveau de la simple communication.
Ouais.
Ils ne comprennent pas le sens de bon appétit. Quand est-ce qu'on utilise au revoir? Ils ne savent pas. Les Nord-Américains sont bouleversés par la propension des Français à dire non.
Et il paraît que c'est un concept fondamental dans la mentalité des Français, dites-vous. Le fait de dire non d'abord.
Voilà. Oui. Mais pour un Nord-Américain, c'est un refus. Ça s'arrête là, la conversation.
Alors
que chez vous, on s'est rendu compte que dans le fond, c'est une sorte de position de négociation.
Oui,
on dit non, a priori, et ensuite, il faut parler, il faut discuter, il faut questionner, il faut, et on arrive à oui.
Non ne veut pas forcément dire non. Vous dites que ce serait la revanche des petits, des obscurs et des sans-grades. Presque un réflexe républicain qui porte en lui une puissance démocratique, carrément.
Mais en réalité, à la réflexion, on s'est rendu compte que c'était aussi une manifestation du tabou, du ridicule, de la peur de ne pas savoir.
De l'ignorance.
Donc, c'est pour ça que les gens vont dire non, vont dire ça n'existe pas, ce n'est pas possible.
Et puis, ils cherchent après.
Ils cherchent après.
Ouais, ils disent jamais je ne sais pas. Mais dans l'esprit, en fait, à l'origine, le livre a été écrit pour les étrangers qui arrivaient ici puis qui essaient
de comprendre
puis de parler des Français et qui rencontrent des réactions qui ne comprennent justement pas. Mm-hmm. Puis on essaie d'expliquer, il y a des choses, il y a différence entre ce qui est discuté en public et en privé. Et l'ignorance, ça passe en privé, mais pas en public. L'humour, ça passe en privé, mais pas forcément en public. On ne parle pas, et le sujet par excellence, c'est l'argent et le boulot. Enfin, on n'en parle pas, les Français n'en parlent pas avec des gens qui ne connaissent pas, tandis que, surtout les Nord-Américains, c'est un sujet qu'on utilise pour aborder la conversation, pour parler à un parfait étranger. Il n'y a pas de tabou du tout sur le sujet.
Quoique l'argent, il y a quatre argents. Il y a l'argent qu'on n'a pas. Ça, les Français sont prêts à
en
parler.
Ça, on en parle.
Ah ouais, ça, vous en parlez, l'argent que vous n'avez pas. J'ai un de mes amis français qui m'a dit, Jean-Benoît, d'après moi, il dit, c'est simple, c'est le réflexe paysan. À l'époque, il y a tous trois siècles, les Français étaient imposés sur leur richesse apparente. Donc, ils ont toujours tendance à noircir le portrait. Historiquement, ont eu tendance à noircir le portrait et c'est rentré dans le discours.
Les Français aiment s'exprimer, dites-vous. C'est un besoin viscéral. Et peut-être que notre passion pour les manifs en tout genre en serait un signe.
Oui, je dirais que, en fait, à chaque fois qu'on vient en France, quasiment,
il y a un truc. Manif,
c'était les Bonnets Rouges en 2013. En fait, la première fois qu'on est venu en France, c'était les paysans.
Les Bonnets Rouges?
Les compagnons de José Bové. Les compagnons
de
José Bové. Ensuite, en 2005, quand on a lancé le livre précédent, c'était les révoltes des banlieues.
Oui, là, c'est les Gilets jaunes.
Mais s'ils ne s'expriment pas, ça va mal.
C'est très français, finalement, les Gilets jaunes.
Oui.
Ah oui, comme les Bonnets Rouges, mais comme aussi le scrutin à deux tours. Vous votez beaucoup, vous avez besoin de vous exprimer, c'est inscrit dans votre système.
Mais là où les manifs sont naturels pour nous, vous expliquez que pour les Nord-Américains, à chaque fois, ils ont l'impression qu'on est au bord du chaos, quoi, à la veille d'une nouvelle révolution.
La France à feu et à sang.
On discute plus, on apprend plus à débattre ici qu'ailleurs.
Oui. Débattre, je ne sais pas, mais exposer, oui. Et comme vous avez une formation en philosophie au niveau du bac qui est assez poussée, le moins de lycéens français est plus formé en philo que n'importe quel Nord-Américain, sauf peut-être les Québécois qui ont aussi une formation en philo.
Donc à l'argumentation, à la nuance.
Exactement. Ouais. Vous êtes formé à ça.
Mais la confrontation, vous êtes très, très à l'aise avec ça, ce qui gêne les Nord-Américains, évidemment. La provocation. Mais ça fait partie de ce qui rend la conversation intéressante pour un Français. Tandis que pour un Nord-Américain, ça fait peur.
La conversation française est un sport, dites-vous.
Les gens pensent que les Français sont compliqués, mais en réalité, à mon avis, ils sont plutôt simples. Mm. Un Français qui ne veut pas parler, il ne parle pas. Un Nord-Américain qui ne veut pas parler à quelqu'un, souvent, il va parler. Mais il va dire des
choses.
Pour créer une distance. C'est très compliqué, ça.
Ah oui, effectivement, les codes sont inversés, en l'occurrence.
Ah, oui, et donc, c'est pas vrai que les Français sont compliqués. C'est faux.
Et par exemple, nous, les petites blagues grivoises, ça arrive, et alors, ça gênerait beaucoup un Nord-Américain.
Oui, il y a des blagues qui se font spontanément ici en public et seraient interdites chez nous.
Au Québec? Les Québécois, ils ont l'air plutôt rigolos, non?
Pas pour ça. Le féminisme a été très, très fort chez nous. On a développé l'écriture inclusive longtemps avant les Français.
Mais
on a expérimenté dans les années 80, quand j'étais très jeune, les traits d'union, les barres obliques. Nous, c'était pas le point médian, c'était les barres obliques ou les traits d'union. pour dire premier, première, étudiant, étudiante, etc.
Bon, les choses ont un petit peu évolué avec MeToo quand même aussi, oui, ici en France. Alors, vous évoquez un grand nombre de sujets, on ne va pas pouvoir tous les passer en revue, hein, mais comme on le disait, le rapport à l'argent, le rapport au travail, à notre contrat de travail, au risque social. En vous lisant, on se dit qu'on ne doit pas être facile tous les jours pour les étrangers qui vivent à Paris, mais en même temps, ce que vous nous dites, c'est qu'on gagne à être connu.
Absolument.
Absolument. Vous signez un livre acéré parfois, mais finalement plutôt bienveillant. Ainsi parlent les Français, publié par Robert Laffont. Même si on n'est pas d'accord sur tout, forcément, puisqu'on est Français, c'est réjouissant. Merci beaucoup Julie Barlot et Jean-Benoît Nadeau de nous avoir rendu visite dans les carnets du monde. Est-ce que j'ose vous dire au revoir ?
Au revoir.
Au revoir.
Revenez donc.
Merci.
Merci. Europe 1. Vous avez peut-être entendu parler de ce premier vaccin contre la dengue, maladie transmise par les moustiques. Il fait polémique aujourd'hui car des enfants sont morts aux Philippines après l'avoir reçu. Enquête à suivre dans un instant. Aux Philippines, des familles accusent le géant pharmaceutique français Sanofi de la mort de leurs enfants après l'administration d'un vaccin contre le virus de la dengue. Vous savez, la dengue, c'est cette maladie transmise par le moustique qui affecte 100 millions de personnes par an dans le monde et qui tue environ 20 000 personnes, surtout des enfants et des femmes enceintes. Selon le procureur de Manille, une centaine d'enfants au moins sont décédés des suites du vaccin, des milliers hospitalisés. Le laboratoire, de son côté, répond que la cause de ces décès n'est pas encore prouvée. Carole Izou est allée mener l'enquête sur place. Voici son reportage.
Ils sont venus demander justice pour les victimes du dengvaxia. À l'entrée du tribunal correctionnel de Manille, des pères, des mères, des frères et sœurs tiennent dans leurs bras des portraits d'enfants et laissent éclater leur colère. Le dengvaxia, c'est ce vaccin commercialisé par Sanofi contre le virus de la dengue. Lorsque le laboratoire français annonce en 2015 qu'ils ont enfin trouvé un vaccin contre cette maladie incurable, c'est l'euphorie. Le gouvernement des Philippines signe un énorme contrat, 50 millions d'euros pour vacciner près d'un million d'enfants entre mars 2016 et novembre 2017. Mais très vite, le pays déchante, des rumeurs circulent, des enfants tomberaient malades, certains même seraient décédés. C'est le cas d'Angelica, la fille de Ramil Pestilos.
Ma fille est tombée malade rapidement après l'injection du dengvaxia. Des maux de tête, des saignements. Elle a beaucoup souffert. Elle ne voyait plus, n'entendait plus tellement elle était faible. À la fin, elle ne pouvait même plus respirer. Et moi, je la regardais, je ne pouvais rien faire pour l'aider.
Depuis quelques mois, les enterrements se succèdent. Nous sommes au cimetière de Muntilpa, en périphérie de Manille, où la famille d'Eiramet, 11 ans, s'est rassemblée pour commémorer les 40 jours de sa mort. Sa mère, Elioli, se souvient des derniers jours de sa fille. Elle présentait des symptômes similaires à ceux des autres enfants décédés.
Elle était léthargique. Elle saignait depuis 3 jours. Au début, je pensais qu'elle avait ses règles. Elle n'allait plus à l'école. Elle ne pouvait même plus se laver. Le docteur n'y comprenait rien. À la fin, elle ne pouvait plus se lever, puis plus respirer.
500 cas de mort suspecte sont en cours d'investigation au bureau du procureur. 103 dossiers ont déjà été constitués. Les plaintes pour conduite irresponsable ayant entraîné un homicide visent à la fois des employés de Sanofi, dont 3 Français déjà tous sortis du pays, et les officiels philippins responsables de l'achat du vaccin. Pour les besoins de l'enquête, des autopsies sont effectuées chaque semaine. Aujourd'hui, dans la petite ville de Taytay, à 20 minutes de la capitale, c'est la veillée funèbre d'Elijah de Guzman, 12 ans. L'autopsie se déroule à l'arrière du parloir funéraire, dans une salle au carrelage blanc. Puis les médecins légistes s'attellent à leur pénible tâche. Pendant près de 4 heures, ils vont prélever des échantillons, examiner les organes, tout photographier avec soin. Puis c'est le docteur Erwin Herfé, légiste en chef, qui annonce les résultats de son examen clinique.
Des élargissements de plusieurs organes et des hémorragies multiples au niveau du foie, de la rate, de l'intestin grêle et du cerveau. Avant la vaccination, Elijah était un enfant en bonne santé et athlétique. Aujourd'hui, il est la 87e victime examinée.
Pour le docteur Herfé, le vaccin a provoqué de terribles effets secondaires. Des réactions allergiques, mais surtout plusieurs mois après les injections, une recrudescence de cas de dengue hémorragique chez les enfants qui n'avaient jamais été exposés au virus avant d'être vaccinés. Cela est dû à un mécanisme spécifique de la dengue, où les anticorps développés lors d'une première contamination peuvent se retourner contre l'organisme lors d'une deuxième, aidant le virus à passer les barrières du système immunitaire. En mimant une première contamination, le dengvaxia rend les enfants séronégatifs plus vulnérables à une deuxième attaque au lieu de les protéger. Le laboratoire a finalement reconnu ce risque en novembre 2017, provoquant un vent de panique aux Philippines. Les médecins locaux sont très en colère car selon eux, ces risques étaient identifiables dès les essais cliniques. C'est l'interprétation des données par le laboratoire qui était erronée, comme l'explique le docteur Antonio Danz de l'hôpital général à Manille.
Nous sommes persuadés que tout le problème du dengvaxia vient à l'origine d'une interprétation erronée des données. Si c'était un accident ou intentionnel, ça je ne peux pas vous le dire. Mais il y avait clairement des erreurs grossières évidentes. C'est Sanofi qui a fait les tests et qui a aussi rédigé les conclusions. Il y avait un conflit d'intérêts évident.
Le laboratoire français se dit prêt à indemniser les familles seulement si une causalité est établie, ce qui est extrêmement complexe car les enfants qui subissent une attaque de dengue hémorragique meurent de la maladie et non pas du vaccin. L'affaire promet d'être un casse-tête juridique. Caroline Zoumani, Europe 1.
Retour dans les studios d'Europe 1 et en ligne avec Carole Izou qui a regagné sa base à Bangkok. Bonjour Carole.
Bonjour Sophie.
Si on comprend bien, les personnes les plus à risque face à ce vaccin, ce sont des enfants et qui n'ont jamais eu la dengue jusqu'ici.
Exactement. Des enfants parce que ce sont eux qui étaient ciblés par la grande campagne de vaccination. Près d'un million d'écoliers ont été vaccinés et 10 à 20% de ces enfants étaient séronégatifs, donc jamais exposés au virus auparavant. Plus précisément, des enfants à partir de 9 ans, car Sanofi avait considéré que le risque existait uniquement pour les plus petits, ce qui a été démenti très tôt par des spécialistes qui ont alerté des risques existants pour tous les enfants séronégatifs. Écoutez ce qu'en disait l'un des meilleurs connaisseurs du virus de la dengue, un Américain, le professeur Scott Alstead, dans un message vidéo diffusé au Sénat philippin pour demander à l'époque la suspension de la campagne de vaccination.
C'est un vaccin qui, donné à des personnes séronégatives, produit des anticorps qui ne protègent pas, qui au contraire renforce la première attaque de dengue, qui au lieu d'être légère sera très virulente. Ce sont les faits. Sanofi dit que c'est un risque uniquement pour les enfants de 2 à 5 ans, mais ça n'a pas de sens biologiquement. On peut s'attendre à ce que les enfants de 9 ans, séronégatifs, développent eux aussi des maladies sévères.
Alors, malgré cette alerte très claire, les vaccinations se sont poursuivies. Pourquoi une telle précipitation, Carole ?
Il y a à cause des agendas des deux parties, deux urgences qui se sont bien trouvées, celle des industriels français et celle des politiciens philippins. Côté français, la firme avait misé énormément d'argent dans le dengvaxia puisque 350 millions d'euros avaient été investis dès 2009 dans une usine près de Lyon, spécialement dédiée à la fabrication de ce vaccin. 2009, c'est-à-dire donc avant les résultats des tests cliniques. Sauf qu'après des résultats décevants, les stocks ne s'écoulaient pas. Il y avait donc une grosse pression sur les dirigeants pour vendre ce vaccin. Et puis, côté philippin, l'agenda était politique. À l'approche des élections présidentielles d'avril 2016, la campagne de vaccination tombait à pic. D'ailleurs, les trois provinces choisies pour la vaccination ne sont pas celles qui étaient le plus touchées par la dengue, mais celles qui comportaient le plus d'électeurs.
D'ailleurs, là-bas aux Philippines, l'affaire du dengvaxia fait l'objet de procédures judiciaires spécifiques, n'est-ce pas, visant des irrégularités politiques et financières.
Oui, les responsables du programme anti-dengue font l'objet de plaintes pour avoir violé la loi électorale et surtout une enquête pour abus de biens publics a été ouverte, non seulement contre l'ancien ministre de la Santé, mais aussi contre l'ancien président de la République, Benigno Aquino, qui avait personnellement rencontré les dirigeants de Sanofi à plusieurs reprises. Entre le budget qui a été déclaré, mis à la disposition du ministère de la Santé et le prix indiqué sur le contrat de vente du vaccin, 9 millions d'euros ont disparu.
Oui, c'est un peu trop gros pour une erreur de compta. Dernière question, Carole. Le vaccin aurait donc fait des centaines de morts aux Philippines. Pourquoi là plus qu'ailleurs? Parce que le vaccin, il a bien été commercialisé ailleurs.
Oui, évidemment, c'est l'un des arguments essentiels de Sanofi. Le vaccin est commercialisé dans 19 autres pays. Aucun ne semble connaître les problèmes signalés aux Philippines. Mais la grande différence, c'est que dans ces pays, le Dengvaxia est réservé au secteur privé, à des gens qui ont les moyens d'un suivi médical. Aux Philippines, on a vacciné n'importe qui, même les enfants qui avaient un système immunitaire affaibli par des maladies chroniques, des leucémies par exemple. Et puis, si ces enfants avaient eu accès à un bon système de soins, beaucoup auraient pu être sauvés, selon les médecins. En fait, la vaccination a été mise en place en quelques semaines, beaucoup trop rapidement, sur beaucoup trop d'enfants, sans se donner la peine, par exemple, de repérer les enfants séronégatifs que le vaccin rendait plus vulnérables.
Merci beaucoup pour cette enquête, Carole, que vous avez réalisée donc, aux Philippines. Et à très bientôt dans les Carnets du Monde.
Au revoir, Sophie.
Celui qui nous emmène en autistan, c'est Joseph Chovanec, philosophe, autiste Asperger et surtout voyageur infatigable. Bonjour Joseph.
Bonjour Sophie, bonjour à tout le monde.
On évoque ensemble une langue que vous aimez parler et apprendre toujours. C'est l'une des 6 langues officielles des Nations Unies.
Oui Sophie, et mardi après-demain, on fêtera même sa journée mondiale. C'est la langue arabe, évidemment. Ceux qui pensent que la mondialisation se fait en anglais n'ont rien compris au monde. L'anglais n'est qu'une langue étrangère pour les interlocuteurs internationaux. D'ailleurs, les gens n'en ont qu'une maîtrise très relative, même ceux qui se disent bilingues. Petit test, comment est-ce qu'on dit « larguer les amarres » en anglais?
J'avoue, j'ai cherché. « Cast off ». Enfin, ça ne sert pas tous les jours.
Ah, mais on est bilingue ou on ne l'est pas. Hein. La langue arabe, au contraire, est la langue première pour des dizaines de peuples à travers le monde, sur des milliers de kilomètres d'est en ouest, du nord au sud. Et mieux, être arabe, ce n'est pas une identité ethnique, contrairement à ce que l'on croit parfois. C'est l'aptitude à parler la langue arabe. Et jusqu'à ce jour, quand on est au fin fond du désert, quand on rencontre des bédouins, eh bien, on est conduit auprès du chef du goum ou du groupe, du kaoum en bon arabe, lequel adresse la parole en arabe à l'étranger. Si l'étranger répond dans la même langue, le chef le déclare arabe. Sinon, il est déclaré ajam, donc non arabe.
Et ça change quoi d'être déclaré arabe ou ajam?
Mais c'est simple, Sophie. Quand on voyage, être arabe permet de payer les choses au tarif local, je veux dire tarif autochtone. Hein. Par exemple, quand on va aux toilettes, il est courant que le prix soit indiqué en anglais et en arabe. Bien sûr, le prix anglais est considérablement supérieur. Si vous savez lire l'inscription en arabe, bingo, vous payez le prix réduit. Début novembre, j'ai visité avec des amis marocains et français un musée à Rabat au Maroc, donc le Chella. Hein. Lors du passage à la caisse, ceux qui avaient salué le guichetier en arabe ont payé le tarif marocain. Y compris ceux qui étaient français avec un faciès, comment dire, presque scandinave. Sauf que pour ma part, je n'avais pas osé parler au guichetier en arabe pour ne pas l'arnaquer. Les Européens, théoriquement, doivent payer le prix fort. En somme, j'ai fait l'autiste.
Bah, c'est bien la peine de connaître autant de langues, en l'occurrence pour ne rien obtenir.
Mais détrompez-vous, Sophie. Une amie marocaine, voyant ce qui se passait, a volé à mon secours. Du coup, je sympathisais avec le guichetier. Il m'a invité chez lui, je n'ai rien payé du tout en fin de compte. Car oui, quand on parle arabe, on fait partie de la famille. Ça, ça n'a pas de prix.
Vous faites partie de la famille, malgré votre look évident d'Européen.
Oui, je crois que les gens ne sont ni bêtes ni dupes. Ils doivent bien se rendre compte que le faciès de l'étranger n'est pas très compatible avec une origine locale. Mais ce n'est pas si simple que ça. Mon ancienne prof de chinois, qui était, si j'ose dire, ethniquement française, m'avait expliqué qu'elle se faisait passer pour une chinoise en disant à ses interlocuteurs qu'elle était issue d'une minorité ethnique chinoise.
Ça passe.
Et oui, ça passait pour elle et ça passait pour moi aussi en Iran, par exemple. Mm-hmm. Certes, je n'ai pas le faciès typique d'un Iranien, mais on me prenait néanmoins régulièrement pour tel, étant donné que dans certaines provinces du nord de l'Iran, proche de la mer Caspienne, par exemple, il y a un certain nombre d'habitants qui ont la même tête que moi, paraît-il. À Ispahan, ville du centre-sud de l'Iran, on me prenait tout ça simplement pour un Téhéranais, la capitale située au nord. Un monsieur m'avait même assuré que j'avais l'accent Téhéranais. Bon, ce n'était peut-être pas un compliment dans sa bouche.
Ouais, enfin, quand on en est à se demander quel accent local on a dans une langue, ça veut dire qu'on maîtrise plutôt la chose.
Ah, mais on est autiste ou on ne l'est pas, Sophie. Moralité de l'histoire, la langue arabe ainsi que les grandes langues internationales de culture ne sont pas là que pour communiquer sur des choses basiques, commander une pizza. Elles donne une place. place aux gens bizarres et font société, créent du lien entre les gens. Pour le dire de façon poétique avec les mots de Al-Razali, peut-être l'un des plus grands philosophes de tous les temps, la joie de la goutte est de se fondre dans l'océan.
Et deuxième moralité, les enfants, apprenez plein de langues.
À toujours, et voyager aussi.
Merci Joseph, à dimanche prochain.
À très bientôt.